On se dit tout sur France Bleu, Vanessa Lambert.
Bonjour à tous et bienvenue sur France Bleu pour On se dit tout, votre émission de confidence. Pendant une heure, on échange ensemble sur un thème qui vous concerne. Chaque jour, vous venez en parler. Voici un indice sonore pour aujourd'hui. Le chant des supporters de Liverpool pour parler effectivement de ceux qu'on a souvent surnommé le 12e homme en football, les supporters. Alors pas juste pour nous dire que vous êtes pour tel ou tel club, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ça veut dire quoi pour vous être supporter? Ça va jusqu'où? Ça vous prend tout votre temps libre? Ça joue sur votre couple? Vous êtes de tous les déplacements à l'extérieur, en week-end, en semaine? Ça veut dire qu'il faut gérer aussi avec son employeur, qu'il faut faire attention à l'argent parce que ça coûte cher. Vous êtes supporter, vous faites partie d'un groupement, de supporters, d'un groupe d'ultra, même on peut en parler. Rejoignez-nous au 0810 055 056. On peut parler aussi de violence dans les stades. Est-ce que parfois vous avez eu peur? Notre grand témoin aujourd'hui, c'est le sociologue du sport Patrick Mignon. Bonjour Patrick Mignon.
Bonjour.
Ça doit être assez fascinant quand même pour un sociologue d'observer ces mouvements de masse chez les supporters, de comprendre pourquoi on bouge tous ensemble comme ça vers un même but.
Oui, c'est certain que en sport, on a deux choses à observer. C'est comment on produit la performance, c'est intéressant. Et la deuxième, c'est comment on la regarde. Et notamment de voir un petit peu comment, c'est le cas du football, un peu du rugby. Le sport génère effectivement des comportements. Des rassemblements, je dirais des rassemblements d'abord.
Déjà, oui.
Et ensuite, à partir desquels s'organisent des comportements très différents selon les pays, selon la nature de l'attachement qu'on peut avoir au sport et à l'équipe. Et ça fait une belle façon de voyager dans le monde, j'exagère, mais en tout cas en Europe.
Supporter égale passion, dévotion parfois aussi, on en parlera. Mais pour en parler, il faut que vous nous appeliez déjà dès maintenant. On vous attend, on attend vos témoignages de supporters, peut-être supporters de père en fils ou de père en fille d'ailleurs. Une passion qui vous prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, qui vous fait du bien ou parfois du mal aussi. On va parler de tout ça et on vous attend, c'est le sujet d'On se dit tout sur France Bleu.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Les supporters, c'est le sujet dont se dit tout et c'est maintenant qu'il faut nous appeler au 0810 055 056 pour nous parler de votre passion, de votre engagement, du regard des autres aussi quand vous dites que vous êtes engagé dans un groupe de supporters, de ce que vous ressentez. On parle du foot aujourd'hui, mais du foot d'il y a quelques années peut-être, quand le Parc des Princes était une cocotte minute prête à exploser. La guerre entre Lyon et Saint-Etienne qui rend les déplacements de supporters toujours très compliqués. Et puis on peut parler des hooligans aussi, même si a priori aujourd'hui en France on n'en voit plus, mais vous avez peut-être connu ça ici en France ou lors de déplacements à l'étranger. C'est le sociologue du sport Patrick Mignon qui est notre grand témoin et on va démarrer cette émission avec un supporter de Saint-Etienne. C'est Alain qui est avec nous. Bonjour Alain.
Oui, bonjour France Bleu.
Supporter depuis 1980.
80, dernier titre de champion de France de l'ASS.
Vous aviez quel âge alors en 1980?
J'avais 13-14 ans.
13-14 ans. Et vous faites partie, c'est important de le souligner, des Green Angels, qui est un groupe d'ultra de Saint-Etienne.
Voilà. Il y a toujours le groupe, mais ils sont dissous depuis 3-4 ans. Il y a toujours le groupe, mais donc on est toujours présent dans le Top Sud. Mais l'association des supporters des Green Angels n'existe plus.
C'est quoi la différence, peut-être pour expliquer pour des auditeurs qui ne sont pas forcément fans de foot, entre un supporter et quelqu'un qui fait partie d'un groupement des ultras? La différence, c'est quoi alors?
Le supporter classique qui vient le samedi ou le dimanche au match, donc il achète sa place, il vient voir son match et tout. Les ultras, on participe, on se retrouve le soir, on fait des bâches, on prépare les tifos, on prépare les animations pour les matchs, tout ça.
Patrick Mignon, on dit souvent les ultras, c'est les vrais supporters de foot.
En tout cas, les ultras se voient comme les vrais supporters de foot. Mais là, ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que de dire voilà, les ultras, qu'est-ce que c'est par rapport à d'autres, c'est un style de vie. Voilà. Donc c'est pas effectivement le rythme du match de foot hebdomadaire qui bon est la structure de base que pour beaucoup de gens qui aiment le football. Pour les ultras, c'est un style de vie. C'est un petit peu la comparaison, on peut la faire avec le domaine musical par exemple. Hein. Vous pouvez écouter des disques dans
oui,
une boule
ça.
Et vous pouvez partager un style de vie qui sera selon votre âge, selon l'époque, punk, hard rocker, etc. Et là, c'est un style de vie. C'est le vêtement, c'est les rassemblements, c'est les lieux, etc. Donc c'est quelque chose sur lequel vous êtes investi 24 heures sur 24. C'est ça le donc qui fait le hardcore, comme on dirait, c'est le noyau dur.
Ça veut dire, Alain, que vous, c'est Saint-Etienne, 24 heures sur 24, tout le temps, toujours.
Ah, mais moi, je regarde, donc nous, sur Saint-Etienne, on a ce qu'on appelle, on a une télé, c'est TL7, donc dès qu'il passe une transmission d'une émission sur la SS ou un match qui a été joué sur la SS, je regarde, tout et tout comme ça. J'ai tout souvent France Bleu pour la minute verte de la SS. Du matin au soir, je vis pour mon club et tout.
Vous étiez petit en 1980, cette passion, elle est née comment ? Oui, enfin jeune, on va dire.
Bah, mon papa était fan de la SS, puisqu'il suivait à la télé la grande épopée des Verts 75-76, tout ça. Et puis mon oncle qui est un petit peu aussi fan. Et puis ça s'est un peu transmis de père en fils, on va dire.
Ce qui est fou avec Saint-Etienne, Patrick Mignon, c'est que même si aujourd'hui les résultats sont un petit peu moins là, il y a toujours cet engouement et cette nostalgie aussi pour une époque.
Absolument. Bah, on a en France, on a deux clubs qui sont exemplaires de ce point de vue-là, en termes d'investissement des supporters, de longévité du phénomène, de fidélité contre toutes ces Lens et Saint-Etienne. Où là, effectivement, ce que dit monsieur, c'est Alain, c'est qu'il y a bien effectivement une transmission, que c'est une affaire familiale. Voilà, il y a pas de perte. Par exemple, on voit bien qu'il y a des clubs. Quand ça va mal, il y a plus personne dans le stade, il y a plus de groupe vraiment mobilisé. Bon, on a des noyaux durs qui ressemblent peut-être plus à ce qu'on imagine du football anglais ou du football allemand de la Ruhr, par exemple.
Et dans votre entourage, Alain? Comment on voit ça, cet engouement, cette passion, le temps que vous y passez aussi ?
Ben donc moi je suis collectionneur en plus, donc billets, programme de match, fèves, pins, sous de verre, tout ça, donc je fais une belle collection et tout. Donc bon, c'est un peu pesant parce que on va dire je me parle du matin au soir de la SS, j'ai pas d'autre domaine pour parler. Donc
c'est votre vie en fait. C'est votre vie.
Ça c'est LASS, moi j'étais en Ligue 2, t'en étais 17e de Ligue 2, j'y étais, il y avait moins 10, moins 15, j'y étais dans la tribune pour supporter mon équipe, donc j'ai eu la chance d'aller au Stade de France en avril 2013 pour la finale de la Coupe de la Ligue. Donc je suis allé à Milan et je suis allé à Bâle aussi.
Merci beaucoup Alain pour ce témoignage, ce premier témoignage de l'émission. On parle des supporters aujourd'hui dans On se dit tout.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Si vous êtes déjà allé à Liverpool, alors vous avez probablement déjà vibré par le You'll Never Walk Alone chanté par les supporters d'Anfield. Ceux du Camp Nou à Barcelone sont pas mal aussi. Et en France, on fait comment pour se faire remarquer quand on est supporter et qu'on aime son équipe ? Qui sont les supporters français ? Que sont-ils prêts à faire pour leur équipe ? Est-ce que parfois ça prend trop de place dans votre vie ? On vous attend pour y répondre au 0810 055 056. On peut parler aussi de la violence dans les stades, de la guerre entre clubs qui parfois tourne mal. On se dit tout avec aujourd'hui le sociologue du sport Patrick Mignon. Et nous sommes en Haute-Savoie avec Freddy. Bonjour Freddy.
Oui, bonjour.
Et vous, en Haute-Savoie, vous êtes supporter de l'OM.
Oui, c'est ça, l'Olympique de Marseille.
C'est plutôt étonnant.
Non, pourquoi ?
Haute-Savoie, Marseille, ça fait un peu de route quand même.
Ah, ça c'est pas gênant, quand on aime, on compte pas. Hein.
C'est ça, vous êtes supporter depuis quand, Freddy ?
Depuis tout petit, en fait. Ça tient de mon grand-père, déjà, il y a très très longtemps.
Le papy était fan de l'OM.
C'est ça, donc je suis la troisième génération de supporters marseillais.
Mais c'est-à-dire que votre grand-père, votre père habitaient en Haute-Savoie ou à Marseille ?
Non, dans le Jura.
Dans le Jura. Comment l'OM est arrivé dans le Jura chez vous dans...
Parce que mon grand-père voilà, a toujours suivi l'OM, il a toujours été fan de l'OM. Mm-hmm. Et puis après, c'était un peu comme une religion chez nous, donc la plupart de la famille sont supporters marseillais, d'autres non, mais moi oui.
C'est fort ça, Patrick Mignon. Il voilà. Nous a dit, Freddy, c'est comme une religion.
Enfants, hein. C'est à eux de prendre la relève.
Oui, c'est que si vous voulez, vous pouvez aujourd'hui considérer la religion institutionnelle, c'est un petit peu dilué. Par contre, on a énormément de phénomènes de religiosité qui sont fondés, alors soit sur des religions qu'on essaie de rebricoler, soit sur des phénomènes comme par exemple les passions liées aux activités ordinaires. Alors donc le foot en est une. Hein, pendant un moment, c'était juste effectivement un loisir de week-end. Et là, qui prend des formes religieuses, parce que bah oui, il y a
il y a le ferveur,
il y a le rituel, il y a l'idée qu'il y a une chose qui nous transcende, qui est le club, qui est le groupe auquel on appartient. Donc tout sont des éléments qu'on retrouvera quand on fera une sociologie des religions. On dira voilà, la religion c'est ça. Il y a des rituels, il y a des forces importantes. Faut être là parce que sinon ça va mal se passer.
Aussi,
voilà, il y a là ça. Si on n'est pas là pour faire, si on fait pas le geste qu'on a fait quand l'OM a fait son dernier match contre Saint-Etienne, eh ben il va mal se passer. Si on reprend pas les chants comme on les a repris, etc. Donc toutes ces choses qu'on va retrouver dans les formes de ritualisation religieuse et qu'on retrouve dans le football, dans le supporterisme.
En fait. Vous avez des rituels, Freddy, quand vous allez au stade?
Oui, premièrement, on rejoint les amis, la famille là-bas, hein, toute l'équipe de supporters. Voilà. Ensuite, on y reste le week-end, on part sur deux jours.
Ouais, parce que ça fait un petit peu de route. Vous y allez une fois par mois, je vois, sur votre petite fiche.
Une fois par mois, sinon tous les deux mois, ouais.
Ouais.
Ah ouais. Donc j'emmène les enfants avec moi et on se rejoint tous en virage nord, là-bas, au Vélodrome.
Ils ont quel âge, vos enfants, Freddy ?
12 ans, 10 ans et 8 ans et demi.
Et ils sont comme vous, pareil ?
Exactement.
Ouais.
Ils dorment l'OM, ils mangent l'OM, ils se lèvent l'OM, ils vivent l'OM.
Et quand on parlait de rituel, on disait, voilà, on essaye de faire à peu près la même chose, s'habiller à peu près pareil toujours, en se disant ça va porter chance. Là aussi, il y a ce genre de rituel chez vous ?
Non, dans la vie de tous les jours, non. Parce que moi,
je disais pour les matchs.
Je ne peux pas me permettre de m'habiller en tenue de l'OM.
Non.
Voilà. Mais c'est sûr, quand on descend à Marseille, oui, les couleurs sont sur nous.
Ouais, toujours.
Ça, c'est obligatoire. Et en parlant de Saint-Etienne, comme tout à l'heure, pour mon prédécesseur, au mois de novembre, on y était, face à Saint-Etienne. Très belle victoire, 3-0 d'ailleurs, de Marseille.
Ça se passe bien entre supporters ?
Ça se passe pas trop mal.
Pas trop mal. C'est pas les pires, c'est ce que vous êtes en train de nous dire entre les lignes.
Ouais. Non, après, moi, je me mêle pas de ce qui est... des clans de supporters un peu violents, je m'y intéresse pas.
Mais quand on est supporter, on y pense parfois, à cette violence, à cette guéguerre entre certains clubs ?
Non, dans les champs, oui, mais après, vraiment, la violence physique, non. Enfin, en tout cas, pas pour moi.
Mm-hmm. La violence dans les stades, en tant que sociologue, j'imagine que vous regardez ça aussi de près, Patrick Mignon ?
Oui, la violence dans les stades, c'est surtout quelque chose qui était très très fort dans les années 70-80, enfin, à partir des 60, quand on a vu apparaître le phénomène, où les violences étaient dans le stade. Et puis, pour des raisons ensuite de sécurisation, etc., les violences sont dépassées, en fait, en dehors du stade. Alors, on a toujours de temps en temps les incidents, notamment par rapport aux relations avec le terrain, envahissement de terrain ou agression, soit physique, soit verbale des supporters. Quelquefois, on a aussi des scènes dans les tribunes. Mais disons que le phénomène de violence, à la limite le plus embêtant, le plus grave, il se déroule quand même de façon plus générale en dehors des stades.
Merci beaucoup Freddy d'être venu témoigner sur France Bleu. On a eu un supporter de Saint-Etienne, un supporter de l'OM et on vous attend maintenant.
Des moments de vie uniques, des histoires universelles, on se dit tout sur France Bleu.
Et on parle des supporters aujourd'hui sur France Bleu, pas seulement pour nous dire quel est votre club de cœur, mais pour essayer de mieux comprendre le fonctionnement des groupes de supporters, vos rapports avec les clubs, les forces de l'ordre, les autres supporters, les déplacements parfois compliqués, la sécurité dans les stades, les interdictions de stades aussi pour certains. 0810 055 056, est-ce que ça a changé, vous qui étiez supporter dans les années 70 par exemple et qui l'êtes encore aujourd'hui? On en parle avec vous et avec notre grand témoin, le sociologue du sport Patrick Mignon. Et nous sommes avec Salima en région parisienne. Bonjour Salima.
Oui, bonjour.
Alors vous, ça vous inquiète un peu tout ça parce que votre fils est supporter du PSG ?
Oui, tout à fait. Oui. Lui, mon fils, il va avoir 22 ans là très bientôt. Au fait, et pourtant c'est un enfant qui n'a pas été bercé dans le culte du foot ou de tout ce qui est fan, supporter, comme la famille, le monsieur précédent où tout le monde boit du machin,
du foot du matin au soir. Oui.
Par contre, non, nous, au fait, on aime le foot, on a fini par aimer le foot pour lui, parce qu'au fait, moi personnellement, je c'est pas que je n'aime pas, mais ça me dit rien. Je préfère faire aller faire un tour ou regarder un match de foot, par exemple. Par contre, nous, avec mon mari, on était obligés de supporter PSG, de l'accompagner, de ses déplacements, ses t-shirts qui coûtent une blinde, il faut les acheter le jour J. Enfin, c'est horrible, mais même ses études, il les a mis de côté un petit peu parce que voilà. C'est que le foot, mais il dort avec le foot, je sais pas. Alors je dis à mon mari, peut-être que on lui a pas donné, et pourtant j'aime mon fils plus que tout au monde, c'est vraiment ma prunelle de mes yeux, mais je me dis, je sais pas.
Vous pensez que vous n'avez pas aimé assez votre fils et qu'il est allé chercher de l'amour ailleurs?
Non, non.
Ah bon, parce que quand même, ça n'a rien à voir.
Non, alors là, pas du tout, au contraire. Mais par contre, d'ailleurs, moi qui n'aime pas le foot, ça ne dit rien, pas que je n'aime pas le foot. Je suis fan de Zizou, par contre. Alors, le jour où il nous a eu la Coupe du Monde, moi, j'étais contente.
Ah ben, voyez, vous aimez le foot.
Je suis descendue, mais bon, voilà. Peut-être qu'il y a quelque chose au fond de moi qui fait que je ne cultive pas. Mais mon fils, il s'est fait même tatouer le PSG sur son bras, quoi, pour vous dire à quel point on le fout. C'est sa vie.
On voit bien, Patrick Mignon, que c'est un peu irrationnel parfois pour certains parents ou l'entourage de dire, mais comment on peut passer autant de temps pour du foot?
Oui, c'est comment nos enfants sont capables de faire telle ou telle chose. On a énormément d'exemples hein, dans l'actualité sur cette trajectoire. Mais oui, si vous voulez, tout à l'heure on disait, oui, il y a la transmission. Mais en même temps, il y a aussi quelque chose qui est d'aller chercher ailleurs que ce qu'on a connu dans la famille pour vivre une vie qui soit une vie nouvelle, excitante. Voilà ce qu'on peut... Je reprenais l'exemple des sous-cultures musicales. Hein. C'est ça aussi. C'est d'un seul coup, on va effectivement passer son temps avec des gens qui vont partager la même passion. On va se comprendre, on va parler le même langage, on va avoir une vie commune, on va avoir une vie collective. Toutes choses qui sont susceptibles, effectivement, de... qui sont très, très excitantes, très intéressantes. Et qui peuvent être aussi intéressantes parce qu'elles inquiètent un peu les parents. Quand on parle de génération, on peut parler de transmission, on peut aussi parler de se faire en s'opposant aux parents, en proposant autre chose, en se donnant autre chose, voilà.
On est supporter différemment à 8 ans, 15 ans, 25 ans, 60 ans, on vit des choses différentes?
Très certainement. À 8 ans, on va être très très sensible, beaucoup plus aux joueurs. C'est-à-dire au football et aux grands joueurs. C'est-à-dire qu'on va avoir c'est un peu l'époque où on collectionne les images Panini, etc. pour les idoles. La question, le rapport au club, c'est lié à des étapes dans la vie, notamment de l'adolescence ou de la post-adolescence, parce que on sait très bien que dans notre société, on devient adulte un peu plus tard qu'on le devenait auparavant, parce que le travail, parce que l'installation, etc. Et donc du coup, dans cette évolution, on va s'engager dans quelque chose qui va engager l'ensemble de la vie. C'est ça, quand on devient ultra, on s'engage dans quelque chose qui vous engage totalement. Voilà. Quand vous avez 8 ans, vous êtes toujours papa, maman, qui vous achète des pochettes Panini. Voilà. Donc quand vous êtes adolescent, post-adolescent, vous déployez votre propre énergie, vous choisissez votre mode de vie. Voilà. Et de fait, il y a de la chaleur, il y a de la solidarité, il y a tout un tas de choses qui sont très intéressantes.
Merci beaucoup Salima pour votre témoignage et ne vous inquiétez pas trop, hein, ça devrait bien se passer. Les supporters de foot, c'est le sujet dont se dit tout. Racontez-nous peut-être vos souvenirs quand vous étiez gamin, adolescent. Est-ce que ça a changé être supporter aujourd'hui en 2018? On vous attend au 0810 055 056.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu.
Chez vous, on est supporter de père en fils ou de père en fille ou de mère en fils, hein, ça marche aussi. Votre maison est décorée aux couleurs de votre équipe, vous êtes de tous les déplacements, vous en avez peut-être perdu votre conjoint ou votre travail. Jusqu'où ça peut aller, cet amour pour un club? 0810 055 056 pour nous parler de votre passion, de ses excès parfois, de ses contraintes, de vos déceptions aussi quand on donne tout pour un club et qu'on n'est pas toujours récompensé derrière. Et on en parle avec le sociologue du sport, Patrick Mignon, qui est notre grand témoin, et avec Nicolas en Charente. Bonjour Nicolas.
Bonjour Nessa, bonjour Patrick.
Bonjour.
Vous êtes un ancien ultra de foot et vous avez quitté le football carrément.
Voilà, c'est ça, moi j'ai pas été dégoûté par le club, j'ai été dégoûté par le sport. Voilà, j'étais ce qu'on appelle capot, je sais pas si vous voyez ce que c'est.
C'est le chef des supporters un peu. Hein.
Voilà, c'est moi qui avais le mégaphone dans la tribune, qui mettait l'ambiance dans la tribune, jusqu'au jour où je citerai pas le club pour pas... Voilà. jusqu'au jour où des fois par mot un mot des fachos ont assis la tribune avec des tracts. Quand j'ai lu la teneur des tracts, j'ai préféré poser le mégaphone et partir de la tribune. Voilà, et ça c'est des choses qu'on voit que dans le foot. Maintenant, je suis...
Mais il y avait quoi sur ces tracts ? Quel genre de message passait derrière ? C'était quoi ? Politique, c'était...
Des messages, il suffit de regarder dans les tribunes, vous apercevez des croix celtiques, des croix gammées, voilà. Alors, sur les étendards. Voilà, donc des tracts, clairement xénophobes, pardon. Voilà, et ça on le voit que dans le foot, on le voit pas au niveau du hand, du basket, du rugby, je trouve ça lamentable. Voilà.
Et donc vous êtes dit je quitte ce milieu-là, je ne fais pas partie de cette bande-là, c'est ça?
Ah ouais, clairement quand j'ai lu le tract, j'ai posé le mégaphone dans les 10 secondes et j'ai dit je ne chaufferai pas la tribune avec ce genre de tract et de personnes présentes dans la tribune quoi. Ouais, c'est clair et net quoi.
Ça a pas l'air de vous surprendre, Patrick Mignon, c'est des faits qui ont existé, qui existent encore?
Oui, qui ont existé, bah bien sûr, bah vous savez la naissance du supporter, ce qu'on appelle ultra dans ces en gros, la fin des 70, la première moitié des années 80. Et c'est aussi un moment où ressurgit en France des groupes d'extrême droite qu'on avait un peu oubliés. Et qui, notamment sur le modèle de ce qui se passe en Angleterre, mais aussi en Italie, vont se donner comme chiffre politique l'investissement des tribunes. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui a existé de manière très forte, très très forte, et dans certains clubs plus que dans d'autres, qui continue parce que c'est pas des idées qui aujourd'hui ont disparu, c'est des idées qui sont plutôt renforcées, et donc parmi les supporters de foot comme parmi d'autres, ce qui fait qu'effectivement, un des enjeux aujourd'hui pour quelqu'un qui est supporter ultra, c'est de savoir comment il prend en compte cette dimension politique. Là, je veux dire, ce qu'il a fait, c'est remarquable parce que beaucoup qui étaient investis dans l'ultra
se laissent influencer peut-être, ou laissent passer,
en disant voilà, bon, l'essentiel, c'est d'être tous derrière le club. Donc, en faisant un petit peu des compromis. Puis, voyons... des compromis, pas sur les idées, parce que les mots d'ordre que souvent vont lancer les groupes ultra vont pas être liés à des idées, nécessairement xénophobes. Par contre, il va y avoir dans la tribune... Ce qui va souvent passer, c'est que ces groupes vont créer leur propre dynamique à d'autres endroits. Mais de fait, ça veut dire qu'il y a des tribunes qui, à certains moments, étaient insupportables pour des gens qui avaient des sensibilités, on va dire cosmopolites, hein. C'est une des grandes oppositions entre nationalistes et cosmopolites. Donc ces cosmopolites se sentaient mal à l'aise dans la tribune de certains clubs parce que la prégnance de ces forces xénophobes, nationalistes, fachos, était devenue trop forte. Oui.
Nicolas, une dernière question. Aujourd'hui, vous êtes supporter de handball. Ça vous manque pas parfois les gros rassemblements de masse? Parce qu'il y a moins de monde quand même au hand.
Si, puis je rejoins beaucoup Patrick ce qu'il disait, effectivement, c'est pas le club qui est en cause, hein, c'est vraiment une petite partie, c'est-à-dire il y avait 36 000 spectateurs, c'était du fait d'un groupe d'une cinquantaine de personnes, je vous cache pas que poser le mégaphone, ça faisait 4 ans que je chauffais la tribune, ça a été un crève-cœur, ouais. Ça a été un véritable crève-cœur pour moi. Je supporte toujours le club, et le club n'est pas responsable de ces personnes, c'est un groupe d'une cinquantaine de personnes, quoi. Donc oui, clairement, ça me manque, ouais.
Mais on l'entend, ouais. Il y a encore beaucoup d'émotions hein, dans votre voix, Nicolas. Merci d'avoir été avec nous, vraiment. Et on continue d'en parler pour 20 minutes encore. Rejoignez-nous au 0810 055 056. On parle des supporters aujourd'hui dans On se dit tout, de cet attachement, de cette passion, cette dévotion parfois aussi.
Partagez vos bons conseils. On se dit tout sur France Bleu.
Comment passe-t-on de simple supporter à un supporter d'un groupe d'ultra, souvent pointé du doigt? À quoi ressemble votre quotidien entre les matchs, les entraînements, les déplacements, la préparation des tifos? Aujourd'hui, on se dit tout sur les supporters, pour savoir vraiment qui vous êtes, pour comprendre aussi, cet amour, cette passion, cette dévotion. On se dit tout et on vous attend au 0810 055 056 avec notre grand témoin, le sociologue du sport Patrick Mignon. Et nous sommes avec Guy à Marseille. Bonjour Guy.
Bonjour.
Vous êtes ancien directeur de sécurité de l'OM, vous l'avez été pendant 30 ans.
Tout à fait, je suis ancien directeur de l'organisation de la sécurité de l'Olympique de Marseille et pendant 25 ans, encadré les supporters avec l'équipe de sécurité dans les stadiers, aussi bien à domicile qu'en déplacement lorsque l'OM joue à l'extérieur.
C'est pas un métier facile, dites donc. Hein.
Ah, c'est un métier très difficile. C'est pour ça que je profite d'une grosse pensée aussi à mes collègues de tous les clubs en France de Ligue 1 et Ligue 2, c'est un métier très très difficile car on doit rendre des comptes aussi bien à notre président de club qu'au pouvoir public, que les procureurs, tout ce qui s'ensuit, les ministères. Hein, parce qu'on a eu des réunions assez souvent au ministère de l'Intérieur selon le match que vous jouez, lorsque vous jouez contre le PSG, etc. Bon, on a des convocations dont les deux clubs ils sont convoqués.
Vous avez eu des problèmes déjà, Guy, avec les supporters de Marseille ou d'autres supporters peut-être?
Bon, les supporters de Marseille, j'ai jamais eu de problème. Ce sont les supporters qui connaissent très, très bien leur sujet. D'ailleurs, vous voyez bien, ils sont reconnus aussi bien en France qu'en Europe et même dans le monde entier. Ce sont des supporters souvent montrés du doigt, mais c'est plus des supporters qu'ils mettent une ambiance du début jusqu'à la fin. Après, c'est sûr que c'est arrivé qu'il y a eu des quiproquos avec des autres groupes de supporters. Mais ça, on sait très bien que on n'est pas à l'abri. Mais personnellement, d'avoir eu un problème avec eux, moi j'ai toujours été respecté. Et après, souvent, pendant le match, si on intervient assez rapidement, lorsque bon, ça dérape un petit peu, bon, il y a des petits mots ou des petits accrochages, mais qui vont vite rentrer dans l'ordre après, car il y a quand même une bonne communication avec eux et avec les leaders de groupe.
Patrick Mignon, les supporters de Marseille qui ont un certain pouvoir quand même dans le club, ça a été le cas pendant très longtemps, ils négociaient les prix des abonnements,
ah bah,
enfin, voilà, ils étaient vraiment engagés.
Ah oui, oui, les supporters de... Les supporters de Marseille sont peut-être ceux qui d'un point, ont le plus grand pouvoir, ceux qui ressemblent le plus à certains supporters italiens ou argentins, c'est-à-dire qu'ils ont non seulement l'organisation de l'enthousiasme, et donc ça c'est un point donc d'encadrer de tout le supporterisme, mais en plus d'avoir effectivement un pouvoir politique fondé sur en partie un pouvoir économique, c'est-à-dire celui notamment de gérer les tribunes. Bon, ça, là-dessus, le club est revenu sur cette question, mais n'empêche, c'est quelque chose qui donne un
très
poids,
longtemps, ouais.
Et notamment un poids sur les joueurs, sur le club.
Je peux vous poser une question très indiscrète, Guy ?
Oui, allez-y.
Comment c'est possible aujourd'hui encore qu'il y ait des fumigènes dans les stades, qu'il y ait de la drogue aussi dans les stades alors qu'il y a des contrôles?
Vous savez, je vais vous expliquer ça. Alors, je vais vite le résumer. J'ai été assez souvent convoqué en commission de discipline pour défendre l'OM. Après, le fumigène lui-même, vous savez, il y a eu une époque, les fumigènes, c'était, vous savez, les gros qui sont sur la SNCF, c'était des gros fumigènes qu'on ne pouvait pas dissimuler. Mais aujourd'hui, petit à petit, le fumigène, il s'est raccourci. Vous avez des fumigènes aujourd'hui qui sont d'une grosseur, on va dire, un peu plus gros que, on va dire, en diamètre, ils auraient une bonne forme, mais en longueur, souvent, ils ne dépassaient pas le stylo. Donc, il faut penser à une chose, l'entrée des stades, c'est une palpation, ce n'est pas une fouille. La palpation, vous imaginez qu'à un stade, il fait 60 000 personnes, s'il faut palper de la tête aux pieds, c'est ce qui se fait aujourd'hui, et qui n'est pas une fouille, je précise bien. S'ils le mettent dans le caleçon, je mets un exemple aussi entre les seins, vous n'avez pas le droit de fouiller ni que ce soit une fille, c'est-à-dire qui doit palper féminin, et masculin, vous n'avez pas le droit de toucher les parties.
Non, mais je posais la question pour savoir, voilà, tout simplement. Merci beaucoup, Guy, pour votre témoignage et votre éclaireur comme ancien directeur de sécurité de l'OM. On parle des supporters dans On se dit tout et on se retrouve pour la dernière partie.
Vos témoignages, vos expériences. On se dit tout sur France Bleu avec Vanessa Lambert.
Et on parle des supporters de foot aujourd'hui dans On se dit tout avec vos témoignages et avec notre grand témoin Patrick Mignon qui est avec nous. Et nous sommes avec Claude en Côte d'Or. Bonjour Claude.
Bonjour.
Vous êtes supporter du FC Nantes depuis 1976.
Oui, c'est cela.
Ça a commencé comment votre histoire d'amour à vous ?
Moi, mon histoire d'amour avec le FC Nantes, ça a commencé que j'ai toujours aimé cette équipe depuis tout petit. Et puis, voilà, j'adore cette équipe-là. Et puis, j'aime bien, voilà.
C'était la génération quoi, de Loïc Amis, tout ça, vous, quand vous êtes arrivé ?
Oui, tout à fait. Loïc Amis, Éric Pécou, Henri Michel, voilà.
C'était une belle équipe. Vous étiez où, vous, à l'époque ? Déjà en Côte d'Or ou vous étiez...
Oui, j'étais toujours en Côte d'Or, hein. Oui.
C'était votre club. Et comment vous faites aujourd'hui pour avoir toujours cette même passion, cette même ferveur, Claude, pour aller voir les matchs aussi ?
Ben, pour aller voir les matchs, c'est très difficile, puisque de Côte d'Or jusqu'à Loire-Atlantique, il y a pas loin de 700 km. Donc, ce que je faisais, c'est quand la JOXR jouait encore en Ligue 1, eh bien, quand la Auxerre recevait le FC Nantes, eh ben, j'allais à la Auxerre et je me mettais en tribune nantaise, bien sûr.
Et votre club le plus proche, c'est donc la Auxerre. Et votre fils est supporter d'Auxerre. Il a choisi le club local, lui.
Voilà, exactement. Et il m'a bien chambré il y a deux jours, là.
Oui.
Puisque Nantes a perdu contre Auxerre à Nantes 4-3. Voilà.
Mais est-ce que vous arrivez à partager quand même cette passion du foot ou est-ce que c'est un petit peu la guéguerre entre vous deux?
Non, c'est pas la guéguerre, hein, pas du tout. Hein, non, on s'entend très bien, point de vue supporter nantais et auxerrois, il n'y a pas de problème là-dessus. Hein. Mais j'ai beaucoup d'amis et de cousins qui sont pour diverses équipes, hein, c'est-à-dire pour Dijon, pour Nice, pour Toulouse ou pour Saint-Étienne. Et lorsqu'il y a un match le dimanche après-midi à Aigné-le-Duc, hein, je vais vous dire, voilà, exactement à Aigné-le-Duc, eh bien on chambre gentiment entre supporters de diverses équipes, quoi, voilà.
Ça, c'est le côté sympa aussi des supporters, Patrick Mignon, de se chambrer entre supporters, ah oui. Ça fait partie du jeu.
Ah bah, de toute façon, être supporter, c'est ne pas être tout seul, quoi, c'est de pouvoir en parler, donc on peut en parler avec ceux qui sont d'accord avec vous, et puis sinon, on peut trouver des sujets très intéressants à débattre, et voilà. Non, ça c'est effectivement, c'est le, on va dire, voilà, c'est la culture du supporterisme que les ultras, ben, ils trouvent un petit peu ridicule, parce que ça manque d'engagement. Mais c'est la culture du football, tel qu'on partout dans tous les pays, quoi, finalement, et depuis que le foot existe.
Oui. Est-ce que les supporters ont beaucoup changé, vous qui suivez ça depuis quelques années? Est-ce qu'aujourd'hui, on a un profil type du supporter qui est différent du supporter
d'années
70?
Non, le profil type, ça, c'est une chose sur laquelle je me suis battu pendant des années, c'était contre le profil type. parce que, par définition, la tribune d'un match de football, elle est très, très différenciée du fait du prix des places, du fait de la façon dont on conçoit ce que c'est qu'un match de foot, etc. Donc, du coup, nécessairement, vous avez des gens qui ont des âges différents, qui ont des parcours différents, qui ont des origines sociales différentes, qui sont arrivées à ce stade par par les grands-pères, mais quelquefois simplement par les copains de lycée, etc. Donc tout ça, ça fait que... alors effectivement, après, on va avoir les ultras, on va avoir la tribune présidentielle, on va avoir la tribune des vieux abonnés d'il y a longtemps, etc. Donc qui reprend un peu le tissu, commerçants, employés du coin, etc. Voilà, c'est ça. Donc,
c'est une photographie de la société. On trouve un stade.
C'est une photographie de la société si on considère qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans les stades, même si elles ont un peu augmenté depuis quelques années, donc c'est pas une reproduction de la société, c'est une reproduction de la société qui est, on va dire, intégrée, qui a une place dans la société, plus de ceux qui veulent se faire une place, c'est les ultras, c'est-à-dire qui veulent trouver une place dans la société. Voilà. Ceux qui sont pas dans la société, parce qu'ils viennent d'arriver... Ils sont pas encore au stade.
Merci beaucoup Claude d'avoir été avec nous et je vous rejoins, les Nantais c'est les meilleurs. C'était mon petit côté chauvin au passage. Je vous embrasse Claude, à bientôt. Patrick Mignon, merci beaucoup d'avoir été notre grand témoin.
Et merci de l'invitation.
Et puis on salue tous les supporters de tous les clubs et on rappelle que le foot c'est aussi sur francebleu.fr. Vous retrouvez toute l'actualité et notamment de la Coupe de France puisque c'était hier et encore aujourd'hui.